France Culture. Les midis de culture. Marie Laborie.
Dans Cyrano, rêver, rire, passer, il revient sur ce rôle qui a marqué sa vie de comédien. Jacques Weber sera mon invité à partir de 13h. Mais pour l'heure, joie, le moment est venu de critiquer aujourd'hui deux créations théâtrales. Oedipe Roy, mise en scène par Eddy Darongeau. C'est jusqu'au 22 février au Théâtre de l'Odéon aux Ateliers Berthier. Et puis Monde Nouveau de Nathalie Garraud et Olivier Saccomano jusqu'au 14 février au Théâtre de Gennevilliers et en tournée en France. Vous écoutez les midis de culture dans la cuisine avec le chandelier. Et je vous présente les joueurs. Zoé Sfez, productrice de la série musicale sur la série musicale. Aujourd'hui, c'est difficile.
Elle peut être médicale, d'ailleurs.
France Culture. Bonjour.
Bonjour Marie. Bonjour à tous.
Vincent Bouquet, journaliste et responsable d'édition du site Scène Web. Bonjour.
Bonjour Marie.
Et bienvenue à tous les deux.
On estime à 160 000 le nombre d'enfants, rien qu'en France, victimes chaque année de violences sexuelles. 160 000 enfants par an. Soit 438 enfants par jour, ou un enfant toutes les 3 minutes. Ce spectacle dure 3h50. Disons le temps pour 77 enfants d'être comptés. 160 000 enfants. Notez que je ne parle pas seulement ici des cas d'inceste, 2 cas sur 3. Notez aussi que ce chiffre regroupe des actes très différents. Attouchement, exhibitionnisme, harcèlement, viol. C'est la catégorie vaste et accueillante de violences sexuelles qui permet de regrouper ces actes et de former cette statistique.
On commence donc avec cette Oedipe Roy par Eddy Darongeau. Ce jeune metteur en scène est aussi un collaborateur régulier de Julien Gosselin, qui l'accompagne depuis plusieurs années en tant que dramaturge. C'est sa deuxième mise en scène. Et en fait, il n'est pas du tout question d'adaptation de Sophocle au croisement de la performance et du théâtre documentaire. Il interroge ici la question de l'inceste comme trauma intime, c'est l'histoire d'ailleurs de sa propre famille, et comme système qui se construit sur la silenciation, cette fameuse culture de l'inceste de nos sociétés contemporaines qui trouve évidemment un écho dans cette tragédie écrite il y a plus de 2000 ans. On commence avec quelques mots aux Sfez.
Alors moi j'y allais un peu à reculons, je dois le confesser, en grande partie parce que je comprenais que c'était un gros morceau, parce que le théâtre documentaire fait peur, c'est des réflexions qu'on a beaucoup avec des théâtres à sujet, et en réalité, je dois dire, j'en suis sortie hier assez ébouriffée parce que je suis très saisie de questions. C'est un spectacle qui m'a fait écrire pendant une heure quand je suis rentrée, ce qui pour moi marque le fait qu'il y a quelque chose qui a marché. C'est un spectacle qui veut à la fois tout dire, tout déjouer sur l'inceste, sur le théâtre, sur la possibilité de créer des images ou d'assister à des choses ensemble. Et il est trompeur jusque dans son titre, puisque évidemment ça devrait s'appeler plutôt Après Sophocle ou autre chose. C'est quand même un des propos sur le théâtre et la violence les plus pertinents que j'ai vus ou que j'ai subis depuis assez longtemps.
Vincent Bouquet.
Alors moi je suis un peu à front renversé parce que contrairement à Zoé, moi j'y allais avec beaucoup d'appétit parce que j'avais beaucoup aimé le premier spectacle d'Eddy Darongeau, et là c'est vrai que celui-là m'a laissé très perplexe. Je trouve que sa volonté de comme ça sortir l'inceste du silence est évidemment salutaire, mais en même temps sa proposition elle est portée par tellement de vents contraires que voilà, la réception devient un peu brouillée.
Alors, Zoé Sfez, quand même, vous avez employé le mot « subi ». C'est-à-dire que c'est une expérience d'assister à ce spectacle.
C'est une expérience d'assister à ce spectacle, et c'est une expérience d'assister à un spectacle qui tente en permanence de commenter le dispositif en même temps qu'il le produit. Et le dispositif, que dis-je ? Les dispositifs, c'est-à-dire que c'est un spectacle qui n'est pas un objet, mais peut-être 10 objets. C'est un spectacle donc qui est en 3 temps. C'est un spectacle qui dure 3h40 si on ne compte pas l'entracte. Dans la première partie, il faut juste le détailler, qui s'appelle « Vous parlez ». On a le metteur en scène qui le dit et sur scène pour la première et sans doute la dernière fois, avec une voix qu'il commente lui-même en sachant qu'elle est monotone, qui a parfois du mal à carrément produire de la phonation. On est dans une salle, je vous rappelle quand même, Berthier, c'est très très grand. Hein. C'est très grand, et le gradin, et la scène. Nous sommes, nous, public, quasiment tout le temps en éclairage direct, comme la lumière du jour, sauf quand il y a des audios qui sont diffusés. Et là, la salle est dans le noir. Et donc, il va parler pendant 40 minutes et dire qu'il aurait pu écrire un livre, que d'ailleurs, il a lu Triste Tigre de Nashino. Je crois qu'initialement, c'était une adaptation, en fait, de Triste Tigre, beaucoup plus que de Dix Proies. Et là, il va nous faire un monologue qui n'est pas du... Donc on se dit, pourquoi il n'écrit pas ce livre en fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Donc à la fois, et ensuite il va déléguer la parole, toujours dans ce temps de nous parler, à des comédiens, des comédiennes, avec un travail sur l'image, on va y revenir, je finis de vous présenter le dispositif, des moments où les comédiens sont cadrés par une cadreuse en direct, mais très délicatement on va dire, souvent pour mettre en jeu soit des gros plans sur le visage qui disent des choses qu'on ne peut pas voir parce qu'on est trop loin, soit pour nous montrer, nous, la salle, donc pour nous dire qu'on est en présence. Ensuite, on peut se demander à ce moment-là, qu'est-ce qui fait théâtre? Vraiment, on se pose la question. Eh bien, en fait, alors que c'est très agaçant sur le moment, ce qui fait théâtre, c'est qu'on est là et que donc on est en même temps que lui, en même temps que ces gens qui nous racontent des choses, on n'a pas d'image parce qu'on ne nous montre pas de théâtre à part deux images. Et en réalité, ce que ça interroge, c'est les images qu'on a tous en même temps en tête quand ces monologues adviennent. Donc en ça, il y a quelque chose. Évidemment, vous l'avez entendu dans cet extrait, la puissance de la salle et notamment l'évocation des chiffres consiste à dire qu'évidemment, il y a des gens incestés dans cette salle et qu'il y a des gens qui ont peut-être commis l'inceste dans cette salle. Ce qui, à ce moment-là, est-ce que c'est ça le théâtre? On ne sait pas. Deuxième partie, c'est une enquête. Une père en série revient, il est déguisé en policier. Et là, c'est vraiment l'histoire de sa famille, photo à l'appui. Encore une fois, une heure et demie, entre guillemets, de non-théâtre. Et au bout de trois heures de spectacle, quand il y a ce désir et cette volonté, dit-il, à un moment donné, d'entrer dans la fiction, ça fait trois heures qu'on est là, eh bien, tout va se jouer dans une fiction qui est filmée dans une maison qui est sur la scène, mais cette maison nous est occultée par une toile et c'est les images filmées à l'intérieur de cette maison qu'on ne voit pas, qui nous sont transmises par cet écran. Donc, il y a toujours quelque chose qui fait écran avec le sujet. Voilà, vous entendez tout ce que je suis en train de vous dire, c'est-à-dire que c'est une contradiction en permanence, mais en réalité, ça produit quelque chose, des milliers de quelque chose, qui disent quand même quelque chose sur le théâtre. Or, c'est tout son sujet, et c'est en ça, et d'ailleurs il le dit, qu'il se raccroche à Oedipe, c'est qu'est-ce qu'on ne veut pas voir, qu'est-ce qu'on n'arrive pas à voir, et quelles sont les images, les seules images possibles à créer. C'est vraiment la réflexion sur les deux. Est-ce que ce sont des images de l'inceste? Est-ce qu'on peut le représenter? En réalité, ce qu'il y a en permanence quand on est dans cette salle, c'est des images qu'on ne nous montre pas ou qui nous échappent en réalité et qui sont celles qu'on a dans nos têtes, nous tous, les uns à côté des autres. Ça, c'est quand même assez puissant. Est-ce que c'est agréable? Non. Mais d'ailleurs, c'est l'objet, il ne souhaite pas que ça soit agréable.
Vincent Bouquet.
Oui, alors moi, ce que vous décrivez très bien, Zoé, moi j'y ai vu une tentative comme ça de représenter, ou en tout cas d'attaquer l'irreprésentable, en fait. Cette espèce de citadelle dans laquelle est l'inceste, de citadelle du silence, et donc comme ça, Edith Arangeau voudrait briser. Alors, comme vous l'avez très bien décrit, il essaie plein de choses. Ouais. Il essaie d'abord, effectivement, de se présenter comme ça, tel qu'en lui-même, avec une posture qui est d'ailleurs assez travaillé, parce que vous disiez, oui, la voix est blanche, mais tout ça, c'est très travaillé, il sait ce qu'il est en train de faire. D'ailleurs, il se regarde en train de faire et il dit même, ah bah, peut-être que je vous ennuie. Donc tout ça, ce ton monocorde, cette posture antithéâtrale, il sait pas trop quoi faire de son corps, etc. Donc, ça pourrait être une solution. Et puis finalement, c'est un peu un échec. Et donc là, il va se dire, bon, je vais essayer d'utiliser l'incarnation. Et donc, il va, comme ça, transmettre cette parole, plutôt que de la porter lui-même, à ses comédiens et ses comédiennes. Et puis, les uns, à la suite des autres, ils vont eux aussi essayer. On a entendu d'ailleurs un des comédiens qui essaie la dimension statistique de la chose, c'est-à-dire on va essayer comme ça de mettre une réalité chiffrée. Alors là, tout à coup, il y a comme ça une tentative de quasiment de spectacularisation, j'allais dire, de l'inceste. C'est-à-dire que on a comme ça un public qui est pris à partie, où on dit effectivement dénoncez-vous, dénoncez si jamais vous avez commis des actes d'inceste, parce que statistiquement, il y a comme ça dans le public forcément, en théorie, des gens qui ont commis cela. Alors peut-être que ce n'est pas le cas, et d'ailleurs il s'interroge là-dessus, mais on voit bien comme ça, même avec les dessins qui sont projetés, les dessins d'enfants qui ont été victimes d'agressions sexuelles, eh bien il y a des dessins comme ça qui sont projetés à un moment, et là aussi il y a une forme de spectacularisation. Et en fait, Edith Arangeau comme ça essaie à plusieurs reprises, sauf que, j'allais dire, tout cela ne dépasse pas, malheureusement, ça reste assez à plat par rapport à ce qu'on connaît habituellement. au-delà du dispositif, j'allais dire dans le fond. Et le problème, c'est que Edith Arangeau se comporte un peu, alors que avec Godard, il n'avait pas du tout fait ça. Il s'était vraiment nourri de tout un tas de références qu'il avait vraiment métabolisées pour créer quelque chose. Or là, il se comporte un peu comme si il était un défricheur d'un terrain un peu vierge, comme s'il était le premier à s'attaquer à ce sujet-là, alors que non, il n'est pas le premier. Et d'ailleurs, au niveau des références, il n'en cite d'ailleurs qu'une seule et unique. Oui, alors Nechino, mais de façon très allusive. On ne sait même pas si on n'a pas lu Triste Tigre, on ne sait pas de quoi il est question dans Triste Tigre. Et la deuxième, c'est Dorothée Ducy, avec Berceau des dominations, Anthropologie de l'inceste. Mais là, pareil, il y a juste un petit morceau. Or, tout son spectacle est pétri de références. Il y a la référence à Jeanne Dielman, on voit aussi la référence à Édouard Louis. D'ailleurs, même un des cas de viol qu'évoque Edith Arangeau fait vraiment penser à Histoire de la violence, à un cas de viol aussi d'Histoire de la violence. Mais par contre, ces références-là ne sont pas citées. À aucun moment, il ne cite ses sources. Et ça, je trouve ça assez problématique quand même dans ce que ça apporte.
Zoé Spess.
Alors, je comprends très bien ce que vous voulez dire. Le truc, c'est que moi, au début, et c'est pour ça que je suis un peu éblouie en fait, j'ai été assez en colère contre ce spectacle pendant la première heure et demie, parce que justement il le dit, il l'ouvre en disant j'aurais dû écrire un livre, moi je pense que ce qui se passe c'est qu'il a lu Nechino, Triste
Tigre,
il a lu Christine Angot, mais je pense qu'il a surtout lu Nechino, parce que Nechino c'est vraiment un bouquin qui interroge la possibilité d'écrire sur l'inceste, c'est-à-dire c'est un objet qui lui aussi s'interroge sur sa forme et ce que peut la littérature. Et je pense que c'était le bouquin qu'il avait envie d'écrire, qu'il n'écrira pas, que ses moyens à lui c'est le théâtre et que peut-être qu'il le dit trop vite, mais effectivement moi je sentais, si on a beaucoup lu sur ce sujet, et c'est mon cas, j'avais aussi des moments d'ennui, parce que toutes les questions sur la statistique, etc., sont des questions que moi j'ai énormément lues, et si vous avez lu ces questions-là, si vous êtes quelqu'un dans la salle d'ailleurs qui est proche du sujet, probablement vous les avez lues. Et donc il y avait un moment où je me suis dit, mais pourquoi il n'a pas écrit son bouquin? Ou pourquoi est-ce qu'il nous fait d'abord cette espèce d'état des lieux? Et en réalité, je trouve que il arrive tout de même, alors il y a quand même quelques petits moments de théâtre, et tout ce que vous dites sur, il a fait un peu un spectacle sur Eddie Bellegueule, parce que c'est une histoire, c'est un garçon qui a une histoire extrêmement proche de celle-ci, vous allez le voir, qui évidemment dans la deuxième partie, celle de l'enquête quand même, s'expose, et expose d'ailleurs dès la première partie largement sa famille, interroge le préjugé, ce que ça veut dire, et je trouve qu'en réalité, à mesure que ça patine, quand j'ai accepté en réalité, qu'on ne ferait pas de théâtre tel que je l'entends, finalement je me raccroche à ce qu'il dit dans le début de son monologue où il décrit une image, et il décrit une image qui est, il met en jeu l'image, celle dont se rappelle sa sœur incestée, celle dont lui se rappelle avec son père, et n'arrête pas de se dire pourquoi je suis metteur en scène, parce que j'ai ces images qui m'échappent, dont certaines sont probablement des images que j'ai créées dans ma tête, et donc ce doute, il y a quand même à chacune des stades, et on peut le dire, il y a quand même une dramaturgie, puisqu'à chacun, à chacune des fins de ces parties, il y a quand même par le témoignage quelque chose qui bascule dans sa perception, puisqu'on ne va pas spoiler, mais il y a quelque chose qui raccroche au mythe d'Oedipe. Je pense que c'est comme ça qu'il a décidé qu'il appellerait ce spectacle comme ça. Il y a deux bouleversements dans son propre récit intime. Il découvre des choses qui ouvrent des portes qui sont de plus en plus abyssales. Et donc, dans sa capacité finalement à lâcher. En fait, à un moment donné, moi, j'ai lâché. J'ai complètement lâché l'idée que j'étais au théâtre. J'ai arrêté d'être en guerre contre ce spectacle et j'ai commencé à me perdre avec eux. Je tiens quand même à dire que la partie documentaire, c'est peut-être celle qui, moi, m'angoissait le plus, parce que le théâtre documentaire, c'est... Là, je me suis dit, pourquoi on ne fait pas un podcast? On est sur France Culture, on a des magnifiques podcasts. La deuxième partie pourrait être un podcast. Elle n'a pas besoin, en fait, presque des images. Et en réalité, le surgissement de la création d'images, qui semble, dans un premier temps, le fameux film qui est très Fassbinder rien dans les images, dans les créatures, la créature donc de sa grand-mère qu'il n'a jamais connue, qui va être le seul lieu de fiction possible. Là, vraiment, il y a un avortement sur scène, il y a des cols de l'utérus sur scène, on déborde encore largement la question. Et là, au début, on se dit, mince, ça va être une fiction qui veut mettre en scène quelque chose, et il prend une liberté. Et je pense que cette liberté finale, cette impossibilité des images, Je l'ai subie, mais elle a produit en moi quelque chose quand même d'assez puissant.
Un tout dernier mot peut-être ?
Oui, alors moi je crois que ce que vous décrivez très bien, moi j'y ai vu quand même l'échec du théâtre aussi, une forme d'échec du théâtre sur ce sujet. Et c'est vrai que ça m'a un peu étonné, d'ailleurs venant d'un metteur en scène qui ne cesse de vilipender le médium théâtral pendant tout son spectacle. Mais c'est vrai qu'on pourrait y passer beaucoup de temps et beaucoup d'heures. Oui.
Oedipe Roy, texte et mise en scène, Eddie Darangeau, c'est jusqu'au 22 février au Théâtre de l'Odéon, Atelier Berthier à Paris. C'est l'heure de votre coup de cœur, Vincent Bouquet, pour Razdep.
Oui, effectivement, Marie. Moi, je souhaite revenir sur une rencontre assez inattendue à laquelle j'ai eu la chance d'assister la semaine dernière à la Comédie de Béthune, à l'occasion du spectacle Razdep. Alors, réflexion sur la question. Ça se construit comme ça, ce titre composite. Et c'est vrai qu'à partir de cela, on pourrait penser que cette rencontre, qui est orchestrée par le tout jeune et très prometteur metteur en scène Simon-Élie Galibert, elle aurait lieu entre Guy Auquinghem et Didier Ribon. Mais tenez-vous bien, elle a lieu entre René Crevel et Guillaume Dustan, c'est-à-dire entre un poète surréaliste du début du XXe siècle et un écrivain tout à la fois brillant mais quand même un peu sulfureux de sa toute fin. Et c'est vrai que ça peut produire quelques étincelles. Alors, aux prémices, on croit assister dans ce spectacle à une adaptation somme toute assez classique d'un livre qui est assez méconnu, qui s'appelle La mort difficile, où René Crevel raconte les derniers jours d'un certain Pierre Dumont, dont on dit qu'il pourrait être son double autofictif. Pour la faire courte, Pierre est homosexuel et dans cette France des années folles où il évolue, il ne peut pas franchement vivre sa sexualité au grand jour. Il est contraint de mentir à sa mère, qui est une petite bourgeoise, catho, homophobe, frustrée. Elle cumule un peu les tares, on va dire ça comme ça. Il fait lanterner son ami Diane, qu'il l'aime mais qu'il n'aime pas en retour, parce que lui, il n'a Dieu que pour le beau Arthur, qui est l'objet d'une passion absolument dévorante, mais qui sera bientôt déçu et qui va pousser Pierre à commettre le pire. Alors là, vous pourriez me dire, ainsi résumé, ce livre et puis le spectacle avec lui, il ne fait que charrier des certains poncifs de la représentation traditionnelle de l'homosexualité, avec son lot de rejet familial, d'amour déçu et puis de suicide final en guise de cerise sur le gâteau pathétique. Sauf que, et c'est le coup de maître de Simon-Élie Galibert, lorsqu'il invite Guillaume Dustan pour venir, comme par effraction, trouer le récit à intervalles réguliers, eh bien le plateau de théâtre se transforme en chambre d'écho. Et là, tout est capable de faire exploser les cadres, les carcans, les codes, et on a Crevel et Dustan autant que Pierre et Guillaume qui se mettent à se répondre avec le pouvoir de l'autofiction de l'un et de la pensée de l'autre qui s'en trouve augmentée, comme si la fameuse énergie dynamique de Dustan permettait de dépasser une forme de caractère inéluctable de la mort et qui faisait reluire le besoin vital de liberté. C'est assez beau et c'est à découvrir à partir de ce soir et pendant 3 jours au Théâtre de la Cité à Toulouse.
Merci Vincent.